ser.
Latina.
La Franco Latina.
Nadie lo hace así. Todo mujer.
Sí. Cántalo más fuerte.
Sí.
Más fuerte.
Les voix que vous venez d'entendre, enregistrées en 1966, sont celles de l'anthropologue Anne Chapman et celles de Lola Kepcha, dernière descendante des Selknam, petit peuple amérindien aujourd'hui disparu, qui habitait la mythique et inhospitalière Terre de Feu. Quand le soleil voulait tuer la lune, et les titres de l'ouvrage publié récemment par l'anthropologue aux éditions Métellier. Il est spécifiquement consacré au Haïn, une cérémonie Selknam qui, pour Anne Chapman, constitue un mélange unique de rituel et de théâtre. C'est bien sûr Lola qui, la première, lui raconta les secrets de cette tradition qui rend doublement fascinant ce peuple qu'Anne Chapman découvrit un peu par hasard.
Bon, je raconte ça un peu, peut-être pas dans ce livre, mais dans un autre livre, que c'était un peu par hasard, dans la mesure que j'ai eu la chance de connaître Madame Annette Lamy-Ampère, là, au Musée de l'Homme, au début des années 60. Alors, elle était une collègue et je la connaissais un peu. Alors, elle m'a raconté un peu ses allées et venues de la Terre de Feu, où elle travaillait comme archéologue. Plutôt le côté chilien, parce que la Terre de Feu est divisée entre l'Argentine et le Chili. Alors, elle m'a raconté un peu vite qu'elle avait connu une femme qu'elle croyait que c'était la dernière Ona Selknam. Ils sont plus connus parfois par le nom Ona. Alors, ça m'a intéressé, si, parce que grâce à la façon qu'elle m'a raconté. Alors, par la suite, je l'ai interrogée davantage. Et par la suite, elle m'a proposé de faire partir de son équipe d'archéologues en Terre de Feu en 1964. Alors, à ce moment, j'étais en train de travailler en Amérique centrale, mais j'ai demandé la permission de mon directeur au CNRS. Alors, il me l'a donné. Alors, la fin de 64, je suis allé de Tegucigalpa, la capitale de Honduras, où je travaillais là tout près, à Punta Arenas, en avion. C'est comme ça que tout a commencé.
Très souvent, il est habituel de voir évidemment des gens qui travaillent dans votre discipline s'intéresser soit aux cultures d'une communauté, d'un peuple qui est là, qui travaille, soit des cultures disparues. Qu'est-ce que ça fait d'aller là où vous êtes en train de voir qu'un peuple s'éteint ? Qu'est-ce que ça fait de se dire que ce que vous avez sous les yeux ne sera plus dans quelques années, comme c'est le cas d'ailleurs depuis ?
Oui, mais il ne s'agit pas de ça, parce que déjà, dans les années 60, bien avant, il restait très peu de gens, très très peu. Alors peut-être à l'époque, il y avait une douzaine de personnes qui connaissaient plus ou moins la langue, qui s'identifiaient de quelque façon avec l'ancienne culture indienne, Selknam. Alors parmi eux, il y avait surtout Lola Kepcha. C'est la femme pour laquelle m'a encouragé Annette Ampère pour aller la connaître. Alors elle était la seule qui était vraiment indienne dans la mesure qu'elle avait vécu dans sa jeunesse la vie de ses ancêtres. Mais il n'y avait que elle et que très peu de gens d'autres qui savaient la langue et qui s'identifiaient d'une façon ou d'une autre avec l'ancienne tradition.
Ça m'a frappé et je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir le sentiment que cette histoire avait la particularité d'être une histoire racontée par deux femmes. Déjà Lola qui vous la raconte, elle, à vous, et Lola et puis Angela aussi, oui, des femmes. Et c'est vous qui nous la transmettez. Et je me disais qu'il y avait dans ce phénomène-là quelque chose de particulier, une façon de transmettre le type d'anecdotes, le type de récits. Vous avez établi avec elle un véritable rapport d'amitié.
Oui, c'est vrai. C'est vrai dans la mesure que Lola était l'inspiration de tout mon travail par la suite, parce que malheureusement Lola est morte en 66 et moi j'ai continué après pendant des années, on peut dire presque jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que le fait qu'elle était une femme, ça m'a approché davantage à elle. Mais ceci dit, il y avait aussi un homme qui était métis, qui n'était pas, que son père était un Norvégien ou je sais pas qui, mais il n'avait jamais connu son père. Mais lui aussi, il connaissait énormément. Il était plus jeune que Lola, mais il connaissait énormément. Donc c'est pas une question de sexe masculin ou féminin qui joue de tout le temps, non? Il faut pas dire que les femmes se rappellent mieux, je crois pas. Mais c'était un peu un hasard. Alors c'était à ma faveur dans la mesure que j'ai pu avoir un rapport plus proche d'elle, étant donné que nous étions tous les deux, nous on était des femmes.
Dans le livre, vous racontez l'histoire de cet étonnant mélange de cérémonies et vous dites peut-être de théâtre qu'étaient les Haïm.
Oui. Alors c'est Lola qui a commencé à me parler de cette cérémonie que je connaissais très vaguement parce que j'avais pas beaucoup lu sur cette culture certaine avant d'y aller. Alors c'était elle. Alors en effet, le titre du livre, ça rappelle plutôt la mythologie que le rite en soi, non? Parce que c'est la mythologie de la matriarcate qui évidemment n'a jamais existé, mais que ça faisait partie très importante de tout le symbolisme de la grande cérémonie qui était faite dans une société qui était tout à fait patriarcale. Alors, c'était le rappel d'une époque où les femmes avaient gouverné la société et que les hommes se sont révoltés contre les femmes et les hommes ont pris le pouvoir. Alors tout ça, c'est d'ordre mythologique. C'était pas vrai, vraiment, comme que ça se passait comme ça. Mais c'était dans leur tête, non? C'était ça qu'ils croyaient. Pour eux, c'était pas un mythe. C'était la réalité que les femmes avaient gouverné auparavant, que la lune avait voulu, plutôt le soleil avait voulu tuer la lune, hein?
Le soleil étant, dans leur mythologie, la représentation de l'homme et la lune de la femme.
Oui, c'est ça.
Vous venez de le dire, Lola, elle meurt en 66.
Oui.
Donc, avec elle meurt la dernière personne d'origine purement Selknam. Est-ce qu'elle est descendante? Est-ce qu'aujourd'hui, cette cérémonie, cette fête continue d'exister ou a disparu?
Non, ça, on peut dire que ça a complètement disparu, mais ça a disparu depuis les années, début des années 30. Alors, les gens de maintenant, ils sont peut-être tous des métis. Alors, parmi eux, il y a des gens qui s'intéressent à la tradition. Mais la cérémonie ne peut pas se représenter maintenant. Je veux dire, ça serait un peu, je veux pas dire impossible, mais très difficile de le représenter comme c'était autrefois, parce que la société est disparue. Ils sont dans un autre monde, dans le monde moderne. Alors, ça serait autre chose s'ils ont l'idée de tâcher de représenter la cérémonie plus ou moins comme c'était autrefois.
Il y a un phénomène qui est relativement récent en Amérique latine, c'est que dans les pays où les Européens, les immigrants sont majoritaires, il s'est passé très longtemps à que cette population s'intéresse à ce qui s'est passé avec ce qu'on a appelé les peuples originaires.
Oui.
Est-ce que vous avez senti une quelconque évolution aussi bien c'est les deux grands voisins ou propriétaires des terres où habitaient jadis les Tecnam, à savoir l'Argentine et le Chili, aussi bien au niveau du gouvernement que surtout des populations, en termes d'intérêt, éventuellement d'un regard différent sur ses ancêtres, sur ces peuples indiens qui ont été condamnés à la disparition, plus que par les milieux naturels qui étaient déjà assez hostiles, par d'autres hommes, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est bien cela. Alors moi, c'est un peu personnel, je veux dire, les impressions que j'ai. J'ai l'impression qu'au Chili, il y a davantage d'intérêt pour les traditions indiennes qu'en Argentine. Argentine est plutôt fixée vers l'Europe, et c'est jusqu'à plusieurs années, décennies, que l'Argentine a pris conscience de le passé indien. Et ceci dit, je crois que au Chili, c'est beaucoup plus dans les mœurs et dans la conscience des gens qu'il y a une présence métisse indienne assez forte au Chili, chose qui existe très peu en Argentine. La plupart des gens sont d'origine européenne. Il y a les groupes là, au Jad, Chaco, il y a certains petits groupes qui exercent une certaine influence. Il y a les ethnologues qui les étudient, mais ça ne fait pas partie vraiment de la conscience d'identité argentine. Tandis qu'au Chili, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus conscients et beaucoup plus, pour cela, beaucoup plus intéressés à la tradition indienne, soit les Mapuches, soit les Guarani, soit même la gens de Terre de Feu, qui maintenant n'existent très très peu. Je veux dire, quelques individus au Chili qui vraiment savent quelque chose sur la tradition fuégienne de Terre de Feu. Oui.
Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'ensemble du continent, que vous connaissez un peu, effectivement, il y a quelque chose de mieux, quelque chose qui progresse dans le sens où il y a plus de gens qui aiment bien même se sentir pas seulement américains, mais amérindiens, comme on dit parfois.
Oui, je crois que ça c'est un peu général dans toute l'Amérique, même aux États-Unis, je ne sais pas au Canada, mais aux États-Unis, et certainement à Mexico, au Mexique, il y a beaucoup plus au Mexique depuis le temps, non? Le Mexique est très très conscient de le passé indien. Mais oui, je crois que vous avez raison. Ces dernières années, ces dernières décennies, il y a davantage d'intérêt et d'études et de divulgation et de présentation. De que parfois s'appelle folklorique, mais parfois ça a un fond indien. Et dans les grands pays comme le Pérou, où il y a un très très grand nombre d'Indiens, quelque chose qui existe encore, alors là, c'est très présent. Mais malheureusement, ces gens sont restés plus ou moins dans la pauvreté. Il y en a beaucoup qui vont là, à Lima, la capitale du Pérou, mais comme travailleurs et vivent dans des conditions assez difficiles. Je veux dire qu'il y a les deux choses à la fois. Il y a les difficultés économiques de la part des gens qui sont plus ou moins indiens ou très indiens, comme au Pérou, en Colombie et en partie au Brésil, mais ça c'est autre chose au Brésil, qui ont des problèmes économiques qui les rendent la vie très difficile pour eux. Ils tâchent d'assimiler à la vie moderne. Et pour autre part, il y a un intérêt pédagogique dans les écoles et les intellectuels sur ces sujets. Mais parfois, les deux intérêts ne se joindront pas. Je veux dire, le fait qu'il y a un intérêt aux Indiens intellectuels et pédagogiques, ça ne veut pas dire nécessairement que les Indiens, et ceux qui sont vraiment Indiens, vivent davantage meilleur qu'autrefois. Parce qu'il y a tous les grands phénomènes économiques qui arrasent un peu avec tout.
Kaksit ai marrein. Marreinit ai tikna jouna. Ja tämnäs.
Je voudrais qu'on reparte un peu un terre de feu en lisant votre livre et en ayant eu l'opportunité d'écouter des enregistrements que vous avez fait là-bas. Nous avons été particulièrement touchés, particulièrement émus d'entendre ces voix venues vraiment au sens propre et figuré de si loin. Et moi personnellement, j'ai été particulièrement touché lorsque vous racontez que une première série d'enregistrements que vous aviez ramené n'était pas ce que vous souhaitiez, ce n'était pas très bon. Mmh. Est-ce que cette dimension-là, déjà la dimension orale, le fait d'enregistrer, le fait de garder les documents, j'imagine quand vous les réécoutez aujourd'hui, il y a quelque chose, j'imagine, de bouleversant dans cette dimension de votre travail.
Oui, oui, ça c'est vrai, surtout pour Lola, parce que Lola était vraiment quelqu'un de très extrêmement courageuse, dans la mesure que elle a vu la mort de tous ses enfants. Elle avait eu 12 enfants, que tous étaient morts avant elle, et tous les problèmes qu'on peut imaginer sont les connaître, non? Elle vivait plus ou moins, non? Elle avait assez à manger, il y avait des gens qui s'occupaient d'elle, et voyez qu'elle souffrait pas en ce sens-là, mais à la fois elle était très très seule. Et malgré tout ça, elle avait une personnalité qui s'imposait, qui voulait que la vie soit heureuse. Et elle, avec moi, elle riait beaucoup quand elle se rappelle des temps d'autrefois. Je veux dire, elle se laissait pas vaincre par sa propre vie qui était vraiment très difficile. Imaginez-vous d'avoir 12 enfants et aucun qui vit encore. Alors là, c'était vraiment le grand drame, mais malgré ça, elle avait un esprit je veux pas dire gay, mais elle avait un esprit que elle se laissait prendre par ses mémoires, les côtés plutôt heureuses que les côtés dramatiques et tragiques.
Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, tu l'es donc. Ah ah.
Pour revenir à la fête, pour revenir à cette cérémonie, j'ai senti, je ne sais pas si je me trompe, que pour vous, il y avait une sorte de double plaisir. Pas seulement le plaisir et la curiosité intellectuelle que vous avez et que vous nous montrez en décrivant par les menus les personnages, les déguisements qui sont assez impressionnants, mais aussi ces côtés, les femmes dans ces jeux avec l'homme. Il y avait cette partie que vous racontez qui est très intéressante où les femmes, on ne sait pas trop s'ils faisaient semblant ou ne faisaient pas semblant de savoir que un personnage qui était censé être l'esprit de l'homme était vrai ou n'était pas vrai. Et ça donne l'impression de quelque chose de très fin, de très subtil. Vous dites à un moment donné que vous allez adopter l'hypothèse que c'était comme ça, parce qu'évidemment, l'histoire comme ça, elle est bien belle. Est-ce que cet aspect-là des choses vous a particulièrement touché, a été particulièrement intéressant pour vous?
Oui, mais évidemment, c'était intéressant, parce qu'en partie, c'est pour ça que je dis que la cérémonie n'était pas seulement une cérémonie rituelle, c'était aussi une espèce de théâtre. En partie, comme vous venez de dire, parce que les femmes savaient trop bien à l'intérieur d'elles-mêmes que ces esprits n'étaient pas les esprits surnaturels. Elles savaient que les esprits étaient leurs propres âmes, ils étaient déguisés, peints avec des masques, mais à la fois, comme vous dites, elles ont vécu sur les deux rangs, si on peut dire, sur les deux niveaux. À la fois qu'elles le savaient, elles entraient dans le jeu de la cérémonie. Elle allait dans ce sens de se supposer, de se convaincre que vraiment ces âmes déguisées étaient des esprits qui ont surgi de la terre, qui ont descendu du ciel, etc. Évidemment, il y avait ces deux jeux, et c'est pour ça que je dis que c'est une espèce de théâtre. Parce que, à la fois, par exemple, qu'elle savait que le fils qui était initié n'était pas vraiment tué par le monstre souterrain, mais dans la partie de la cérémonie où l'esprit diabolique, si on peut dire, de l'enfre monde tuait le fils, elle pleurait, elle suppliait à l'esprit méchant d'avoir pitié de le fils, quand, à vrai dire, elle savait trop bien qu'il n'était pas vraiment tué.
Ce qui est impressionnant aussi par les images que l'on a pu voir des personnages qui participaient à la cérémonie, du point de vue de déguisement, de la construction visuelle des personnages, ça ne fait guère primitif. Ça, on a l'impression de quelque chose de très pensé, de très recherché, et puis de très bien fait. Des personnages qui sont déguisés de pied à la tête, avec des peintures sur le corps, mais qui sont très raffinés finalement.
Oui, oui. Oui, il ne faut pas s'étonner que ce soit très raffiné, parce que dans d'autres groupes au Brésil et même dans les autres continents, comme l'Afrique, les îles de la Pacifique, etc., l'Australie, les gens originaux, comme vous dites maintenant, ils étaient très sophistiqués en ce sens-là. Mais il faut dire, maintenant c'est peut-être le moment de dire, c'est grâce à Goscinny, Martin Goscinny, qu'on a les photos et on a l'explication en détail de cette grande cérémonie. J'étais un ethnologue, un religieux ethnologue qui était là en 1919 jusqu'à 1923. Il a fait 4 voyages du Chili en Terre de Feu et c'est grâce à lui qu'on connaît les détails parce qu'il a vraiment vu la cérémonie. Il a pris des photos de la cérémonie des esprits. C'est grâce à lui. Mais il ne faut pas s'étonner que ça soit très bien fait parce que c'était toujours comme ça. Je veux dire, cette cérémonie, c'était en 1923, où il y a les photos, et ils ont fait comme l'habitude, non? Ils avaient fait cette même cérémonie l'année d'avant et 2 années d'avant, et ils faisaient très attention à tous les détails de déguisement, comme eux aussi, les hommes, voulaient tromper les femmes, dans le sens qu'ils voulaient que l'esprit semble parfait, et qu'on n'avait pas le doute que l'esprit était quelqu'un qui venait, qui surgissait de l'infremonde. Mais c'est pas ça exactement non plus, c'est pas seulement ça. C'est qu'ils avaient cet esprit artistique exigeant qui se manifestait dans ce soin qu'ils faisaient pour faire des masques et pour se peindre avec beaucoup de détails, ça c'est vrai. Mais...
Parfois dans vos conversations avec Lola, lorsqu'elle parle des autres, on dirait aujourd'hui les Blancs, on dirait les Européens, etc., elle parlait des chrétiens, comme si les chrétiens étaient une identité. Ça a été effectivement comme ça pour eux. Le trait le plus important de celui qui arrivait était le fait qu'il faisait partie de ce monde appelé chrétien.
Oui, dans la mesure que une grande partie des Seltnams, des Onas et aussi des Yagan, ils connaissaient les Blancs par les missionnaires. C'était pas le cas de Lola. Il y avait des missionnaires italiens, les Salesianos, dans la partie des Seltnams. Il y avait des missionnaires anglais, les Anglicans, dans la partie des Yagan. Et beaucoup de gens, autrefois, je veux dire, avant les grandes épidémies qui ont pratiquement détruit tous ces gens, ça, c'était les gens qui connaissaient le mieux. Mais aussi, il y avait des estancieros, les propriétaires des grands étendues de grandes fermes de moutons. Alors, c'est eux qu'ils connaissaient parfois. Non, c'était eux qui étaient des gens qui ont venu là pour exploiter le terrain et avec le troupeau de moutons. Alors eux, ils connaissaient les Blancs par eux aussi, pas seulement les missionnaires. Ici, elle dit chrétien, je crois que c'est pour ça, c'est un peu l'influence des missionnaires d'identifier tous les Blancs. Et évidemment, tous les estancieros, c'était la plupart, pas tous, mais la plupart étaient des chrétiens aussi. Ils venaient d'Europe, ils venaient du même pays, de l'Argentine ou Chili, c'était des chrétiens. Alors c'est pour ça qu'il y a cette identification de blanc avec les chrétiens, oui.
La toute dernière question. Vous avez passé une bonne partie de votre vie là-bas. Et tout montre dans vos écrits, dans la façon dont vous avez travaillé, que, évidemment, pour vous, ça a été bien plus qu'un objet d'étude, oui. Bien plus qu'une période de travail. Ça a été vraiment une vraie partie de votre vie. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont évolué. Vous les dites vous-même par rapport à la façon dont on regarde ce peuple-là, le respect nouveau, l'intérêt. Est-ce qu'il y a encore pour vous un rêve? Quelque chose qui, un jour, vous vous êtes dit, je rêve du jour où il se passera ici quelque chose, un rêve qui est encore là?
Oui, vous posez bien la question. À part les publications, moi je donne énormément d'importance à la publication, évidemment, et les enregistrements des chants, surtout les chants de Lola Kepcha. Mais aussi, il y a un autre, si vous voulez, une espèce de rêve. Moi j'aimerais bien que... que ces cultures soient appréciées, pas seulement par les intellectuels, mais que ça entre dans la vie des gens. Je veux dire que ça soit montré, que ça soit à partir des études, depuis l'école primaire jusqu'à la fin, et que les mêmes étudiants à un certain niveau, à niveau de, je sais pas, de 15 ans ou 16 ans, que eux-mêmes, comme une espèce d'exercice, qu'ils tâchent de reproduire la grande cérémonie de l'Hain, chose qu'il peut arriver à le faire grâce à ce grand travail de Goscinny et aussi, j'espère, grâce à mon livre, que là, il y a assez de matériel pour que les écoles, surtout à un certain niveau, il peut arriver à faire une semblante de la cérémonie. Ça serait une autre façon de le faire apprécier, ce que c'était autrefois ces cultures, et aussi de regarder un peu autour d'eux pour voir les autres groupes indiens qui existent encore aujourd'hui. Oui.
Chapman, je vous remercie beaucoup et j'espère que notre prochain rendez-vous sera peut-être dans une cérémonie.
Merci à vous, c'était vraiment un plaisir de parler avec vous et de parler à ce public. J'espère qu'ils vont s'intéresser à tous ces sujets qui seront vraiment passionnants.
Todo. Wal juntar, Shankar. Wal juntar.
La franco-latine.